Vivante Église.
Vivante Église.
Vivante Église, une émission proposée par Éric Dupri.
Bienvenue à l'écoute de Vivante Église pour le retour du grand écran, cette série que nous dédions au 7e art. Comme d'habitude, deux films au sommaire de cette émission. Le premier vient tout juste de sortir en salle et le cinéma L'ABC le projette actuellement à Toulouse. Il s'agit d'Indomptable, réalisé par Thomas Gijol, film policier dont l'intrigue se tient à Yaoundé, au Cameroun. Le second long-métrage que nous avons retenu a été tourné en 2004. Il avait suscité beaucoup de polémiques à sa sortie en France à l'époque. C'est The Passion of the Christ, la Passion du Christ, réalisé par Mel Gibson. Pour ce retour du grand écran à Vivante Église, j'ai le plaisir de retrouver mes deux camarades cinéphiles, Paul Dima, intervenant cinéma pour les Côtes au Païs, les centres jésuites dans le sud-ouest, et Louis-Marie Solaire, producteur de l'émission N'oubliez pas l'ouvreuse sur Radio Présence. Bienvenue à tous les deux. Je signale d'emblée que votre ciné-parole du mois de juin à l'ABC a lieu mardi prochain, le 17 à 14h30. Une séance pour laquelle vous avez donc choisi Indomptable de Thomas Gijol, un comédien et cinéaste plus connu au départ en tant qu'humoriste, artiste de stand-up, et qui surprend avec ce film policier qui n'est cependant pas la première réalisation de cet auteur, ce réalisateur. Louis-Marie, un mot sur sa filmographie.
Il a essentiellement réalisé des comédies, il a été beaucoup acteur, mais en tant que réalisateur, on lui doit notamment Case Départ en 2011, qu'il co-réalise avec Fabrice Eboué. Première réalisation en solo, c'est Fast Life en 2014, parce qu'après, en 2018, son troisième long-métrage, Black Snake, il le co-réalise avec Carole Rocher, qui est sa compagne à la vie. Donc... maintenant, avec Indomptable, il réalise un polar, vous l'avez dit, mais pas seulement. Il y a quelque chose d'une chronique sociologique aussi, puisque à travers l'enquête menée par le commissaire Bilong, on découvre comment la population peut vivre à Yaoundé et au Cameroun en général.
Ou survivre.
Et comment lui aussi vit-il avec sa famille, nombreuse pour le moins. Il a beaucoup d'enfants, beaucoup de garçons et de filles. Plus de garçons que de filles, d'ailleurs.
Alors, je vais rappeler qu'il est d'origine camerounaise, Thomas Gijol, mais il est né en France, il a grandi en France. Hein. Ses parents, eux, sont nés l'un et l'autre, hein, le père et la mère, à Yaoundé, mais donc Thomas Gijol a grandi en France. Bon, il était membre aussi du Jamel Comedy Club, hein. Il a
oui,
commencé
tout
comme
à
ça.
Fait,
hein.
Oui, oui, oui.
Puis, sur Canal Plus aussi.
Canal Plus, le grand journal, on voyait.
Oui. Le Fou du Roi.
Ceux qui suivaient à l'époque Le Fou du Roi avec Stéphane Bern, effectivement. Il a collaboré avec ses camarades de Blanche Gardin et donc Fabrice Eboué, vous l'avez cité, qui est son grand ami. Hein. Ils ont fait beaucoup de choses ensemble et je ne doute pas qu'ils en referont sans doute un jour. Bon, voilà pour le parcours et la filmographie de Thomas Gijol. Avant de parler d'Indomptable, de l'intrigue et des acteurs du film, je propose d'écouter sa bande-annonce. Je rappelle que tout se passe à Yaoundé, la capitale du Cameroun.
Appel d'urgence, on signale le meurtre de l'officier de police Albert Koumné.
Ça dit qu'on peut mourir dans les bouchons dans ce pays.
Il y avait une vendeuse ici, n'est-ce pas? Une femme, elle faisait les beignets haricots.
Commissaire Bilong.
Son surnom, c'est Blackie.
Tu es Camerounais, non? Donc tu es intelligent. Il faut me raconter ce qui s'est passé.
On peut travailler dans des conditions pareilles.
Sois un peu présent pour ta famille. Ton travail a pris le dessus sur tout.
Le nom que tu portes là, c'est le nom de ma mère. Hein. Faut avoir un peu de conscience de ça.
Tu me parles encore et toujours des traditions.
Arrête de traumatiser cet enfant.
Je protège mon enfant.
Mais tu ne me parles pas fort.
Papa, tout à l'heure, on pourrait aller manger une glace.
Ouais, concentre-toi sur les classes d'abord.
Vous foutez un câble d'abord, générateur.
On stoppe les mensonges. De toi à moi. Toi, tu es un homme, moi, je suis un homme. Je souhaite à personne d'être dans ma position-là. Choisis entre laisser la violence perdurer ou l'exercer soi-même. Quelqu'un doit bien faire le boulot.
Voilà la bande-annonce d'Indomptable qui vous donne un petit aperçu de l'atmosphère de ce long-métrage de Thomas Gijol où il tient le rôle principal, celui du commissaire Bilong. Quelle est l'intrigue, l'histoire de ce film et ses principaux personnages, Paul Dima?
Alors l'intrigue est assez simple. Le commissaire Bilong apprend la mort, l'assassinat, parlons clairement, d'un collègue et il est chargé de trouver le meurtrier. Et on le voit être confronté à un tas de difficultés. Donc c'est un polar, mais pas seulement un polar. C'est même la qualité du polar, c'est de nous immerger dans un monde et de voir toutes les facettes, qu'est-ce qui fait que les gens réagissent comme ça, comment un peu avancer l'enquête. Et c'est assurément la réussite du film Indomptable qui dresse un tableau sans concession de la société camerounaise, alors que c'est tiré d'un roman...
D'un documentaire,
documentaire qui ne se passe pas au Cameroun.
Non, c'est un crime à Abidjan de Moscou Boukou.
C'est ça,
sorti en 1999.
Y a donc une réinterprétation. Il déplace, pas la chronologie, le lieu du film. Il passe de la Côte d'Ivoire au Cameroun, le pays d'origine des parents du réalisateur. On voit cet homme qui est à la fois très rigide et en même temps qui se laisse toucher. Il a beaucoup de peine à tout gérer. Et au niveau professionnel, où il a la pression de ses supérieurs, il faut que l'enquête avance vite, parce que tuer un flic, ça ne se fait pas, et donc il a la pression. Donc il va utiliser tous les moyens pour arriver à trouver qui est le meurtrier, et ce n'est pas simple. D'autre part, il a peu de pouvoir aussi dans sa famille. Enfin, il est très autoritaire, il menace ou pas un de ses fils qui a fait une incartade un peu à son école et à un moment dans une discussion il dit il est mort comment
Marvin Gaye
il dit c'est son père qui l'a tué
il s'en va,
bon entendeur salut. Mais ce personnage est en même temps très attachant parce que il a sa technique à lui pour faire avancer l'enquête, il faut aller vite et il ne faut pas lui raconter des carabistouilles, comme on dit, parce que c'est perdre du temps que de ne pas dire la vérité. Alors, tous les moyens sont bons, et on va les utiliser, parce que rien ne fonctionne bien dans ce pays. Il y a des coupures de courant,
on l'entend dans la bande-annonce.
Oui,
comment on peut travailler dans ces conditions ?
Comment travailler dans ces conditions-là, avec des collègues policiers qui font un peu n'importe quoi aussi, qui détournent de l'argent.
Oui, parce qu'on voit aussi l'aspect corruption qu'il peut y avoir dans ce pays, comme dans d'autres malheureusement en Afrique.
Hein. Et un peu à tous les niveaux. Et c'est de la corruption pour vivoter. Voilà, ce n'est pas des grands bandits. C'est des gens qui ont besoin d'arrondir leur fin de mois et puis de pouvoir nourrir leur famille.
C'est de la petite corruption.
Ou de regarder la télévision, bon, parce que c'est important.
Le courant, c'est important parce qu'on voit un générateur à un moment.
Oui,
c'est
oui,
capital.
Oui.
On est capable de laisser mourir un homme pour avoir l'argent qui permettrait de le faire soigner.
Oui, c'est ce qu'on voit aussi.
Pour avoir de l'électricité dans son logement. Il utilise l'enquête, en fait, Thomas Njijol, c'est un prétexte pour aborder les dérives de la société camerounaise. Tout ce qui s'y passe,
ouais.
vous en avez parlé, les violences policières, la corruption.
L'État, quoi, l'État de ce pays, hein, où il n'y a pas grand-chose qui fonctionne,
ouais.
A-t-on l'impression. En tout cas, ça fonctionne par intermittence.
Et lui navigue au milieu de tout ça, parce qu'il a bien conscience qu'il incarne le pouvoir, et celui qui tente de garder le contrôle du pays, malgré tous les problèmes, toutes les difficultés qu'il traverse, c'est un pays qui n'a plus de repères, quoi. C'est le moins qu'on puisse dire, puisque la seule issue pour penser à autre chose, si on peut dire ça comme ça, c'est la drogue pour les jeunes, et c'est très...
Et la délinquance aussi,
pour avoir un peu d'argent. Et donc c'est ça, et puis il rajoute aussi la rigidité qu'il a, vous en avez parlé aussi, avec sa famille. Avec ses enfants, avec ses fils, son fils le plus grand. Hein. Ce n'est pas l'aîné de la famille.
Non.
L'aîné de la famille, c'est une toute jeune femme.
Adeline.
Adeline qui l'a
qui
mise...
Elle a quitté la maison, le foyer.
Alors, elle a quitté de son plein gré ou contre son gré, on ne sait pas. On imagine que dans tous les cas, lui ne lui parle plus et elle ne lui parle plus non plus. On va voir comment, justement, par rapport à son enquête et à ce qui se passe au Cameroun et à Yaoundé en particulier, et dans sa famille aussi, comment lui va évoluer. Il va évoluer, comment sa pensée va venir dans quelque chose de plus ouvert, plus à l'écoute de ce qui se passe, même envers des délinquants pour lesquels il aura un regard un peu plus, voire paternaliste, en particulier avec... l'un d'entre eux qui, au moment de son arrestation, se blesse grièvement Et à cause de ses blessures, parce qu'on ne l'amènera pas à l'hôpital ou parce qu'on va l'amener à
on
l'hôpital.
On ne va pas le soigner à l'hôpital.
Mais on ne va pas le soigner parce que
l'argent a été détourné. L'argent a été détourné.
Ce qui est assez affreux et dont on se rend compte comment se passe la prise en charge des gens blessés au Cameroun. Il faut payer, il n'y a pas d'argent et on le retrouve dans un cagibi.
Et personne n'appelle pour dire, attention, si vous ne donnez pas l'argent, il va mourir, il est en train de mourir. Il arrive, il constate, il est déjà mort le type.
Ce qui est intéressant dans ce film, c'est ce que disait Louis-Marie, c'est comment tous ces obstacles qui se posent sur son chemin, aussi bien dans sa famille, dans le contexte de Yaoundé et dans l'enquête policière, va l'amener à quitter un peu de sa superbe il était un homme de principe. Il représentait les normes assez sentencieuses, toujours habillé de façon très stricte, édictant des lois intangibles. Et puis, en fait, tout ça vient un petit peu remettre en cause sa posture de pater familias.
De gardien de l'ordre aussi, parce que c'est une réflexion sur l'ordre. Et comment on se positionne par rapport à l'ordre qu'on doit faire respecter lorsqu'on est policier et père de famille.
Et là, sa femme joue un rôle très important. Oui. Elle lui tient tête. Elle est la seule dans le groupe familial qui
La fille aussi. La fille est
La fille, tête aussi, la fille
on la voit peu, mais lorsqu'elle voit son père, c'est
oui,
pas
il
faire.
Se passe des choses, oui.
Et même, pardon la parenthèse, parce que même dans la vie professionnelle, personne ne lui tient tête, à l'exception de son supérieur hiérarchique.
Oui, parce qu'on peut penser aussi qu'il a quelques ambitions, quand même, ce commissaire Bellou. Oui. Et d'ailleurs, à la fin du film, on va apprendre qu'il va devenir directeur de la police judiciaire pour tout le pays. Bon, il dit ça assez froidement, mais bon, on sent qu'il est peut-être arrivé à quelque chose qu'il espérait.
Et alors, il y a une fin assez heureuse. D'une part, il retrouve l'enquête est close, il retrouve
l'assassin.
Et puis, dans sa famille, il y a une forme de réconciliation, où il sort de son rôle de pater familias.
Mais il va prendre un peu l'armure
et
à la fin.
Il fait un peu l'armure et il voit sa fille qui est...
Qui joue au foot.
Gardien de but.
Et une bonne gardienne de but.
Ah oui. Et...
D'ailleurs, ce n'est pas anodin qu'elle soit gardienne.
Oui, ça n'a pas été choisi au hasard.
Non, alors, il y a eu des interviews de Thomas Gijol depuis que l'annonce de sa sortie avait été faite. Et voilà ce qu'il dit, entre autres. L'important, c'était d'être vrai, de ne pas avoir un regard fantasmé ou faire une carte postale du Cameroun et de ne pas non plus dénigrer ce pays que j'aime profondément. Ça aurait été un peu culotté en tant que citoyen français d'adopter cette posture. J'ai fait simplement un état des lieux sans jugement aucun. Et je trouve qu'il y parvient bien, moi.
Oui,
tout à fait.
À trouver ce positionnement qui n'est pas facile.
Non. C'est fait de façon subtile, malgré des passages un peu hard, mais de fait, c'est très respectueux.
Parce que là aussi, on parle de la dérive autoritaire de cet homme, du pays, comment ça se passe. Tout se passe dans la pire des conditions pour les gens qui y vivent et pour les policiers aussi. Et dès le début, on se demande si ce n'est pas parce qu'il a trempé dans des magouilles, le flic. Dès le début, étant donné ce qui se passe, étant donné combien ils peuvent être corrompus. Et qu'en fait, on apprendra que l'issue, c'est quelque chose de finalement très banal. Bon, si ce n'est le fait que ça coûte la vie à cet homme. Mais la raison pour laquelle on va le tuer, c'est une histoire de fric, mais rien à voir avec une quelconque corruption de ce flic. C'est ce qui est encore finalement plus terrible dans le sens où on aurait pu imaginer qu'il trempait dans quelque chose de louche, ce qui n'était même pas le cas.
Mais toute sa difficulté à se positionner, aussi bien d'ailleurs dans son métier que dans sa famille, apparaît au détour d'un dialogue avec je ne sais plus quelle personne dans le film, où le commissaire Belong dit « Je dois choisir entre laisser la violence perdurer ou l'exercer moi-même. »
Oui.
Et je ne souhaite à personne d'être dans ma position.
Oui, et je souhaite à personne d'être dans ma position.
Oui, parce que pour arriver
à... Et on sent qu'il a du mal. D'ailleurs, si on se met 2 secondes à sa place, qu'est-ce que je ferais, moi? Qu'est-ce que je ferais? Alors, ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'il y a quand même dans cette histoire où il a mis manifestement beaucoup de lui-même, d'abord de sa relation avec le pays d'origine de ses parents, qu'il connaît pour sans doute y avoir été enfant, adolescent chez ses grands-parents, on peut l'imaginer en tout cas. C'est aussi sa relation sans doute avec son père, avec son propre père. Et il le dit d'ailleurs dans une interview, « Je me suis inspiré de mon propre père, j'ai fait un travail rétrospectif de mon rapport à lui, de celui de mes frères et sœurs aussi, et à ça s'est rajouté une touche de polar, car j'étais trop pudique pour le faire de façon frontale. »
Oui, bah, et finalement, il n'y a plus de doute sur la relation qu'il a pu avoir avec son père.
On peut imaginer qu'aussi c'était la paterfamilias qui devait être assez stricte.
C'est très intéressant, c'est-à-dire que le rôle de la fiction permet de parler vrai.
Oui, ça paraît paradoxal, mais c'est la vérité.
Il y a la grand-mère aussi qui lui rappelle d'où vient ton nom, hein, qu'il redira en plus à sa femme quand il est en opposition avec elle. Tu portes mon nom et tu respectes. Et voilà. Donc il y a toute une chaîne de transmission.
Parce que son père, dans le film, on apprend au début qu'il a été une sorte de résistant qui a sans doute œuvré, combattu pour l'indépendance
pour
du Cameroun.
Pour l'indépendance du Cameroun. Oui.
Et qui est mort, je crois, d'ailleurs.
Oui, il est mort.
Et qui est mort au combat. Mm-hmm. Voilà, donc il a aussi, il ne veut pas, entre guillemets, déroger, il ne veut pas décevoir, et notamment la grand-mère.
Et oui.
Oui, la grand-mère.
Qui est sa mère. Absolu,
la grand-mère, c'est sa mère,
sa mère. Sa mère.
Oui, oui. Parce qu'il parle de grand-mère le plus souvent à ses enfants, mais en parlant de sa mère à lui. Mmh. Et donc, c'est ce qui peut prêter de temps en temps à confusion. Et elle a des problèmes de logement, la maman, puisqu'il y a des problèmes avec la maison qu'elle occupe, cette maison familiale, dont on lui aussi refuse de s'occuper parce que son frangin n'a rien à fiche.
Oui.
Et encore, j'utilise des mots mesurés.
Correct.
Et qu'il n'a qu'à s'en occuper, lui, comme justement il a du temps libre.
Mais ce que j'ai beaucoup aimé aussi dans le film, c'est qu'il n'insiste jamais sur ce qu'il veut dire. C'est-à-dire, c'est souvent, non pas allusif, mais ça passe très vite par une phrase, par un regard,
et ça suffit.
Par une posture, et on comprend ce qui se passe entre les êtres. Il y a beaucoup de non-dits. Il a du mal aussi, quand même, à dire ses sentiments, cet homme.
Ah ben oui, il rappelle plutôt les principes sur lesquels on ne peut déroger.
Oui.
Et sa femme lui dit, au lieu de faire attention à tes enfants, tu pourrais commencer par les aimer.
Oui.
Et là, elle le conteste dans son rôle de maintenir l'ordre. Elle dit, d'abord, apprends à les aimer.
Oui. Et puis, il y a toujours le reproche constant qu'il leur fait de ne pas travailler convenablement en classe, que ce soit à l'école ou des études supérieures plus élevées, probablement lycéen pour son fils le plus grand, son fils aîné. Et puis, le moindre problème qui peut arriver dans la maison, c'est leur faute. C'est parce qu'ils n'ont pas rangé, c'est parce qu'ils n'ont pas fait quelque chose. Et le plus bel exemple, c'est son fameux CD de Marvin Gaye. On revient toujours à Marvin Gaye, où il leur reproche « Mais qu'est-ce que vous avez fait de mon CD ?»«
Mon CD, oui. »«
Où est-il ? Où est-il ?» Et on se rendra compte que le CD, c'est lui qui l'a mal rangé.
Il est dans la bagnole.
Dans sa voiture.
Il est dans la voiture. Là où il doit être, finalement.
Oui, et il le trouve et il le met. Et le rapport qu'il a avec cette musique-là et ce chanteur-là, la chanson qu'il met, c'est « I met a little girl » et rien n'est laissé au hasard. Et là, on assiste à une déambulation de cet homme de nuit au volant de sa voiture. Il rentre chez lui et on voit Yaoundé, de nuit, avec un autre regard illustré par cette musique.
C'est très beau plan, d'ailleurs.
Et voilà.
Plan de la ville illuminée.
Et là, d'un coup, ça devient autre chose. Oui. Et c'est ça qui est tout à fait réussi aussi.
Mais il y a vraiment les codes du polar dans ce film.
Oui. C'est un très beau film, intelligemment construit.
C'est bien monté,
et filmé,
un bel ouvrage.
Oui.
Et c'est bien joué par des acteurs que moi je ne connais pas, qui sont peut-être connus au Cameroun sans doute.
Remarquables à l'interprétation.
Oui, qui sont tous très bons.
L'actrice qui joue le rôle de la maman est très forte.
Très bon. Bon, écoutez, on va en rester là, à chacun de se faire son idée sur ce film que nous avons manifestement apprécié tous les trois et que nous vous conseillons d'aller voir à l'ABC à Toulouse ou dans d'autres salles de notre région où Indomptable est programmé. Je rappelle que vous pouvez échanger avec Paul et Louis-Marie mardi prochain, le 17 juin, lors du ciné-parole qu'ils animent à l'ABC après la projection du film qui commence à 14h30. Dans quelques minutes, nous allons revenir sur La Passion du Christ, le film de Mel Gibson. En attendant, nous allons écouter un extrait de sa bande originale composée par John Debney, Mary Goes to Jesus.
Thank you.
Église, Éric Dupri.
Nous sommes de retour pour la seconde partie de Vivante Église et je suis toujours en compagnie de Paul Dima, intervenant cinéma pour les Coteaux Païs, les centres jésuites dans le sud-ouest, et Louis-Marie Solaire, producteur de l'émission N'oubliez pas l'ouvreuse sur Radio Présence. La seconde partie de cette émission est donc consacrée au film La Passion du Christ, The Passion of the Christ, réalisé par Mel Gibson, sorti en France en 2004. J'ai dit tout à l'heure que cette œuvre singulière à plus d'un titre avait diverses été appréciée dans notre pays et qu'elle avait même suscité une vive polémique à l'époque. Je rappelle que le film retrace les 12 dernières heures de l'existence du Christ, du Mont des Oliviers à sa crucifixion et sa résurrection. Il y a aussi de nombreux flashbacks qui renvoient aux principaux épisodes de la vie publique de Jésus. Pour votre part, tous les deux, quels souvenirs vous gardez de ce film? Comment l'aviez-vous reçu lorsque vous l'aviez découvert à sa sortie il y a plus de 20 ans? Oui, Marie, peut-être, pour commencer.
Sans parler, bien sûr, de ce que le film raconte, c'est la façon dont il le fait, qui est proprement insupportable. C'est le moins qu'on puisse dire. Ce parti pris évident de sa part de faire, à juste titre, le Christ comme quelqu'un qu'on a maltraité au point de le crucifier. Mais la façon de le faire et la façon de le montrer est particulièrement excessive et voire à certains moments insupportable. Alors après, on pourra discuter du parti pris de mise en scène. Toujours est-il que ça dénote quand même, chez Mel Gibson en tout cas, cette volonté de marquer, de frapper les esprits à tous les points de vue et son côté extrémiste dans le fait d'avoir choisi de montrer des images, ces images, et de cette façon-là. Vous parliez des flashbacks, puisque c'est les 12 dernières heures, on voit le chemin de croix. Alors, ne parlons pas du chemin de croix. À un moment, on a l'impression que Jésus finit en steak haché, quoi. C'est exactement ça.
Oui, c'est ça, parce qu'il faut dire pourquoi. Pourquoi c'est insupportable.
Parce que y a même, proprement, certaines images sont terribles. La façon
violente, extrême.
Les Romains, c'était peut-être vrai ou pas, la question ne se pose pas, on n'a aucun moyen de vérifier. Toujours est-il que...
Il y a quelques témoignages quand même, de la façon, on sait un peu quand même comment se passaient les crucifixions.
Oui, mais ça ne pouvait être que barbare. Les Romains sont des personnages particulièrement assoiffés de sang et ils n'ont de satisfaction que dans la vision des gens souffrir. Ils ont tout le temps un rictus aux lèvres. Alors c'était peut-être encore une fois la vérité, mais est-il nécessaire d'en arriver jusque-là pour montrer ce qu'il est advenu du Christ pendant ces dernières heures? J'en suis pas persuadé. Et d'un point de vue cinématographique, pour moi, le film est un ratage complet.
Polima.
Alors il y a eu polémique. D'ailleurs, même avant la projection du film en France, on se doutait que ça déchaînerait...
Oui, parce qu'il y avait des choses qui avaient filtré. Hein.
Des passions. Moi, je remarque qu'il y a une différence de ton radical entre la mise en scène de Mel Gibson et les récits évangéliques. Alors, oui. On pourra développer.
Alors,
ça.
C'est intéressant ce que vous dites là, parce qu'il faut parler de ces sources d'inspiration. Il y a les quatre évangiles canoniques, bien sûr, Jean, Luc, Marc, Matthieu... Ça, c'est la source principale, mais il s'inspire aussi d'autres parties du Nouveau Testament, plus rarement de l'Ancien Testament. Et puis, il y a des sources apocryphes.
Oui.
Alors, même certains diront légendaires. Et il y a les visions de la stigmatisée allemande Anne-Catherine Emmerich, qui sera d'ailleurs béatifiée quelques mois après la sortie du film. À l'époque, c'est Jean-Paul II qui est pape, je le rappelle. Oui. Voilà. Donc, il y a beaucoup de choses là-dedans, mais je pense que ce qui a le plus dérangé, c'est qu'il y intègre ces visions d'Anne-Catherine Emmerich.
Oui. Ceci a des conséquences importantes pour ceux qui se reconnaissent de la tradition chrétienne et pour l'image publique aussi du Christ et de la place de la passion dans la vie, la mort et résurrection du Christ. Le film laisse entendre ou laisse percevoir que on est d'autant plus sauvé qu'il a davantage souffert, ce qui n'a rien à voir avec les récits évangéliques qui sont d'une sobriété surprenante. Voilà, il a été crucifié sous Ponce Pilate, est mort et est ressuscité. Voilà. On ne peut pas faire plus court. Alors, tant insister avec une approche un peu gore quand même. Et insistante.
Certains ont même parlé de pornographie.
Oui. Un ancien archevêque de Toulouse, à la sortie du film, a dit « que de la barbaque ».
Oui.
C'est-à-dire qu'on passe à côté du sujet. Et c'est le danger parce que, en plus, ça rejoint un terrain favorable dans une certaine dolorisation.
Oui, c'est ce qui a aussi été relevé.
Et mortification reproché. Qu'il faut s'appliquer. Il a tellement souffert pour moi qu'il faut que... Voilà. Et ça, c'est tout à fait étranger au message évangélique. C'est pas en raison de sa souffrance qu'il nous sauve, c'est en raison de la fidélité à la mission qu'il a de témoigner de son Père, quoi qu'il en coûte. L'un et l'autre n'ont rien à voir ensemble. Alors, forcément, ça fait des débats. Ce qui est intéressant quand même, c'est que dans cette présentation assez trash et assez gore, il nous fait toucher du doigt jusqu'où la violence humaine peut aller. Et ça nous dit quelque chose.
Mais surtout la violence humaine qui là s'applique à un innocent.
Eh bien oui, et ça rejoint tous les innocents qui sont torturés, exécutés de façon inhumaine. Toutes les victimes actuelles d'ailleurs d'actes de violence, et ça c'est pas inintéressant. Mais les rapports à la passion du Christ, ça me semble être un...
Vous trouvez que ça va trop loin.
Un focus interrogeable.
Il y a un autre reproche qui a pu être fait, une accusation même, c'est l'accusation d'antisémitisme. Est-ce que vous avez relevé ça dans ce film?
Alors, moi je dirais que...
L'image des pharisiens qu'il donne...
Oui, alors, il n'est pas le premier. Hein.
encore une fois, on parle de cette accusation d'antisémitisme. Elle relève de ça. Voilà, maintenant, est-ce que c'est fondé ou pas fondé? Est-ce qu'il est antisémite?
Quand on voit Satan apparaître, il apparaît plutôt aux côtés des autorités juives, hein, plutôt que des Romains.
Oui,
ça avait été relevé, tiens, comme par hasard.
Voilà. Alors, là, il y a la transposition d'un contexte politico-religieux d'il y a 2000 ans à un contexte politico-religieux contemporain. Je crois qu'au moment de l'écriture des évangiles, puisque c'est de cela qu'il est question, tout le monde était tout à fait au courant de ce qui se passait pour les crucifixions. Donc c'était pas la peine d'en parler. Les gens avaient ça dans la tête et dans le cœur. Aussi bien les Romains que les Juifs, c'était des spectacles publics et diffamants. Donc c'était pas la peine d'en rajouter. Que Mel Gibson se dise dans notre monde un peu aseptisé, tout ça, enfin peut-être de moins en moins, je veux montrer jusqu'où peut aller la folie des hommes dans la violence et la haine du juste. Bon, ça c'est pas inintéressant. Mais la brutalité des images fait que on subit ce supplice. Et de façon un peu voyeuriste et malsaine. Alors en même temps, il y a beaucoup de gens qui ont été touchés par ce film, c'est indéniable, et qui leur a fait faire un chemin spirituel. Bon, ce n'est pas une raison pour le bénir.
Vous savez, quand Pasolini tourne Salaud, il y a des choses qui sont insupportables aussi.
Ah bah aussi. Bah
oui. Quand je suis allé le voir, on a fini à 5 dans la salle. Mmh. Bon, vous voyez, là encore, ce n'est pas la première fois. Alors, vous parlez de ceux que ça a touchés. Bah, y en a un qui est célèbre, que ça avait touché à l'époque, qui avait eu droit à une projection privée dans ses salons du Vatican, c'est Jean-Paul II, justement, et qui aurait dit, alors, je n'ai pas recueilli...
Vous n'y étiez pas.
Je n'avais pas le micro, hein, mais qui aurait dit à la fin, il serait resté un peu silencieux, il aurait dit, oui, ça s'est passé comme ça. Il n'aurait rien dit d'autre. Mmh. Oui, Marie.
Non, c'était... Je m'attache à la forme et dans la forme, finalement, ce que va retenir le spectateur en sortant du film. Qu'est-ce qu'il va retenir? Il va retenir cet homme martyrisé, massacré. C'est ça qui frappe, c'est ces images terribles
qu'il a subi. Le sort fait un innocent, oui.
Oui, ouais, mais en fait, les images qui vont rester, encore une fois, je reviens là-dessus, c'est celles-ci. Et est-ce qu'on va penser au sacrifice ultime de cet homme que le Christ a fait pour l'homme? Je ne suis pas persuadé de ça. On voit la violence, la barbarie, et on ne voit pas à quoi ça correspond. Vraiment, ce qui marque dans le film, c'est ça.
Je crois que quand on est touché à ce point de façon émotionnelle, on n'a plus de capacité, d'une part, de distance, et d'une part, de compréhension. On est agi par ses répulsions, son dégoût, son... La scène, par exemple, de la flagellation, ce n'était évidemment pas une partie de plaisir, hein, mais la façon dont c'est filmé...
Bah oui.
Il y a des ralentis,
même qui
il y a
ont compté le nombre de coups qu'ils avaient
très entendu. Gros plans, des ralentis où on voit la chair éclater.
Ouais.
Enfin, c'est l'horreur absolue. Et c'est ce que dit Louis-Marie. C'est pas tellement de rendre compte qu'il a été flagellé, c'est la façon dont on en rend compte qui va dans le gore et la répugnance maximum.
Et si on s'en tient juste à l'aspect de mise en scène et cinématographique, il abuse du ralenti.
Ah oui.
Chaque fois que le Christ subit, il a la croix qui pèse sur ses épaules, chaque fois qu'il tombe, c'est ralenti. Ensuite, il ajoute la musique, puis il fait ses flashbacks au milieu qui ressemblent plus à des moments de catéchisme, quoi. C'est le moins qu'on puisse dire, tiens, il s'est passé ça dans la vie de Jésus avant. Et alors, vous aviez parlé de l'apparition de Satan,
qui est joué par la fille d'Adriano Celentano.
Exactement, c'est ce que j'allais vous dire.
Oui. Un look très androgyne d'ailleurs.
Oui, il l'a fait raser. Elle a Satan n'a pas fait ce visage. Là aussi, on se demande ce qu'est ce diable-là.
Oui, mais c'est intéressant, c'est que le diable, après la crucifixion et la mort du Christ, après qu'il a rendu son dernier soupir, se retrouve tout seul.
Oui.
Il a marqué
oui.
qu'il se retrouve tout seul, hein.
Oui, oui, non, mais.
Il n'est pas content d'ailleurs de se retrouver tout seul.
Même dans son imaginaire, il respecte un peu. Une trame qui est acceptable, mais c'est quand même dans l'excès. Dans l'excès.
Alors, concernant la violence des scènes de la crucifixion, le côté insupportable, je reprends le terme de Louis-Marie, de la flagellation, de tout ce qu'on a pu voir, je voudrais qu'on écoute un extrait d'une interview de René Girard, l'anthropologue du sacré, le père de la théorie mimétique. Son œuvre est parcourue de références à l'Évangile, entre autres, et à la Passion du Christ. Et l'un de ses maîtres livres a pour titre « La violence et le sacré », c'est dire s'il connaît ce sujet. Voici ce qu'il disait du film de Mel Gibson, il y a 20 ans, au micro de nos confrères de KTO TV.
J'ai des réserves au sujet du film, mais son projet fondamental, c'est-à-dire d'utiliser vraiment le cinéma pour montrer la souffrance du Christ, ça n'a jamais été fait. Mais ça a été fait en peinture. Et personne ne s'insurge aujourd'hui contre le Christ de Grunewald à Colmar. Ou personne ne s'insurge contre l'art espagnol en général, qui montre des Christs beaucoup plus épouvantables et effrayants que celui de Mel Gibson. Alors je ne comprends pas très bien pourquoi cette réaction si négative à Mel Gibson, et en particulier en France, où je me demande si... Il n'y a pas une espèce de mélange entre la politique et le cinéma. Mais sur la question de la violence en général et des évangiles, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à l'époque où les évangiles ont été écrits, le réalisme n'existait pas. Le réalisme, c'est l'art occidental, le grand art occidental est réaliste. Et c'est peut-être à cause de la passion que l'art occidental est réaliste. À partir du moment où on a commencé à représenter la crucifixion, on a voulu la rendre de plus en plus réaliste. Par conséquent, pour le cinéma d'essayer de représenter la passion de façon que je voudrais aussi proche que possible des textes évangéliques. Mais enfin, cette passion-là, même si elle n'est pas aussi proche qu'on pourrait désirer, est beaucoup plus proche que toutes les passions que j'ai vues. Alors, il me semble que le projet de Mel Gibson est légitime. La question qui se pose à moi, c'est pourquoi la haine extraordinaire que soulève ce film. Je me demande si, au fond, ce n'est pas la passion derrière qui a toujours, au fond, gêné le public occidental et qui a attiré quand même de grands artistes ou des gens très originaux. Ou bien on parle de théologie, ou bien on parle d'art. Mais j'ai l'impression qu'on mélange parfois un peu les deux dans l'opposition à Mel Gibson. Alors je pense que c'est ça qu'il faudrait tirer au clair. Ou alors, comment faut-il représenter la passion? Faut-il la représenter style Hollywood 1920, vous voyez, ou Ben-Hur, ou des choses comme ça? Mel Gibson réagit visiblement contre ça. Est-ce que cette réaction est valable ou est-ce qu'elle est condamnable, n'est-ce pas? Mais si on la condamne, alors il faut la condamner sur le fond des autres passions qui ont été faites. Et je pense que si on compare toutes ces passions, eh bien, le film de Mel Gibson, quand même, apparaîtra comme d'une qualité supérieure, je pense, à la plupart.
Alors voilà, un joli pavé envoyé dans la mare. Donc, c'était il y a 20 ans, peu après la sortie du film. Évidemment, René Girard juge, critique le film à l'aune de sa propre œuvre et de tout ce qu'il a pu dire lui-même sur la violence et le sacré, le bouc émissaire. Paul Dima, je pense que vous connaissez un petit peu l'œuvre de René Girard.
Oui,
qu'est-ce
oui.
que ça vous inspire, ce qu'il dit du film?
Bon, c'est une façon de l'interpréter, de le recevoir. Moi, je suis plus sensible au fait que l'excès dans la démonstration de la violence annihile la possibilité d'avoir un regard juste. C'est-à-dire qu'on est pris par l'émotion et par le dégoût et on oublie le sens de l'histoire. C'est-à-dire que la crucifixion était un supplice infamant, mais largement pratiqué et par les Romains. Et on voit la compromission des tenants de la religion malmenée par le Christ durant sa vie terrestre, complice de cet acharnement.
À travers le personnage de Caïphe, le oui, prêtre, bon, voilà. Vous n'avez pas osé dire le mot, on va le dire, et donc, l'establishment juif de l'époque.
Voilà, cette focalisation me semble, quoi qu'en dise René Girard, et je n'engage que moi, détourner le point focal de ce que dit la passion du Christ.
Et si on se met à la place de ceux qui ont assisté à la passion à l'époque, comment ont-ils pu la recevoir, ceux qui étaient présents, le peuple qui assistait à ça?
Le peuple qui assistait à la mise en croix disait « il a guéri les autres, pourquoi ne se sauve-t-il
Parce
pas lui-même ?»
Ils ont dû voir ce que nous on a vu dans la salle, hein.
Oui.
Sauf que c'était vrai.
Il a eu droit. La crucifixion, c'était le supplice courant, j'allais dire.
Oui, ah, c'était le supplice pour les condamnés de droit commun.
Il a eu droit à un traitement particulier grave, parce que lui, il a été quand même cloué. Les autres n'étaient qu'attachés.
Donc,
il a quand même, le Christ a quand même eu droit à un traitement spécifique.
Mais qui faisait mourir plus vite.
Probablement, oui, ça c'est... Certains,
parce mais que consolation.
Consolation, parce que le supplice était long, puisqu'il il mourait d'épuisement.
Par étouffement.
Et par étouffement,
par
surtout.
Oui,
puisque la fatigue gagnant, il ne pouvait plus se soutenir.
Il ne pouvait plus respirer.
Mm-hmm. Il n'arrivait plus, oui. Alors, je ne connais pas assez la littérature de Girard pour parler et pour revenir sur ses propos, qu'il fait de façon très posée, mesurée, à l'aune de ses connaissances. On ne peut pas dire grand-chose par rapport à ça. Mais vous parliez de l'époque et de l'époque où il a fait ça. Mais quand le film, je parle de Girard, quand le film est sorti, Mel Gibson a été invité sur différents plateaux télé en France, et en particulier sur Canal+, dans le Grand Journal. Il disait qu'il a été surpris par les polémiques à l'époque. Mais il faut dire que lui-même aussi, alors c'est le problème qu'on a tendance à associer l'homme avec l'œuvre, et que lui était dans plein de polémiques et par des propos qu'il avait tenus en tant qu'homme, à la fois sur les Juifs, sur les femmes aussi, qui l'ont rattrapé, forcément. D'ailleurs, il est plus du tout dans une quelconque sphère hollywoodienne. Il a pu réaliser un film récemment qui n'a pas marché du tout. Il est toujours sur son deuxième volet sur la résurrection du Christ.
Voilà,
va-t-il y arriver, ça, on
alors,
sait pas, on verra.
Justement, avant de faire cette émission, j'ai regardé où ça en était, parce que les dernières nouvelles qu'on avait eues, le film devait sortir à Pâques 2025, donc il y a quelques semaines plutôt, et il semblerait que, non seulement il ne va pas sortir tout de suite, mais il n'est même pas tourné.
Oui.
Il va être tourné, c'est ce que j'ai trouvé, il va être tourné cet été, de nouveau en Italie, un peu aux mêmes endroits, donc Cinecittà, et puis les lieux où il avait tourné le premier volet, donc La Passion. J'en sais pas plus, il y aura sans doute à peu près les mêmes acteurs. En tout cas, Maya Morgenstern, qui jouait la Vierge, je crois, il sera encore.
Cavizel, probablement.
Cavizel, sans doute aussi. Mm-hmm. Sauf qu'ils ont tous pris 20 ans depuis. Mais comme on ne sait pas du tout ce qui va sortir du chapeau, à quoi s'attendre, je n'en sais rien.
À suivre.
Vu le temps qu'il prend pour le faire, on peut imaginer que ça va encore être quelque chose qui va sans doute choquer, en tout cas interroger.
Parce que le film avait coûté 30 millions quand il l'a réalisé, et 30 millions qu'il avait sorti lui-même.
De sa poche.
Et de sa poche.
Il avait rapporté plus de 200.
Oh, même plus que ça. Il est arrivé à 600 au niveau mondial, s'entend. Hein.
Oui.
Donc, espère-t-il le même score, ça? Et a-t-il l'argent pour financer le film? Là aussi, c'est compliqué, puisque là, maintenant, il n'a plus de revenus, comme il en avait à l'époque où il a fait le film.
Oui. Nous allons devoir conclure cette émission. Merci à vous deux d'en avoir été les invités. Je rappelle que le Ciné-Parole que vous animez en duo mardi prochain à l'ABC le 17 juin est consacré à Indomptable, le film de Thomas Gijol. L'échange avec le public a lieu après la projection qui commence à 14h30. Je rappelle aussi à nos auditeurs fans de cinéma le rendez-vous qu'ils ont chaque mercredi à 19h en direct sur Radio Présence avec N'oubliez pas l'ouvreuse, l'excellente émission de Louis-Marie Solaire. Ce numéro était animé animé par Éric Dupri, à la technique Enzo Basile. Merci à tous d'être fidèles à l'écoute de Vivante Église. À la semaine prochaine.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00, 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.